Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciats, et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Jean-Baptiste Detieux, bonjour.
Bonjour Claire.
Pour son livre intitulé « Le voyage de Jeanne » aux éditions Anne Carrière. On en parle dans quelques instants avec lui, mais comme à l'accoutumée, je vous donne quelques petites infos sur le livre et les manifestations qui s'y rapportent dans notre région. Tout d'abord à la librairie Castella, place du Capitole à Toulouse. Vous pouvez rencontrer Frédéric Becbédé demain soir à 17h, vendredi 20 novembre donc, qui est lauréat apparemment du prix Renaudot pour son dernier livre, un roman français publié chez Grasset. Donc demain à 17h à la librairie Castella. Et puis je continue avec également demain, mais dans un autre lieu, à Rabastens, au Bar des Sports, une rencontre, un apéro lecture organisé par l'association La Presse à Réaction. C'est à partir de 19h. Et alors la chanson sera à l'honneur, que ce soit tube, hymne, comptine, opérette ou berceuse. La chanson constitue une forme de poésie populaire, donc venez nombreux, l'entrée est libre, pour lire ou, ma foi, pour chanter également, demain soir à Rabastens. Je continue avec le festival Lettres d'automne, la 19e édition de ce festival à Montauban, qui a lieu donc dans cette région, et à Montauban plus précisément, du 23 novembre au 6 décembre prochain. L'invité d'honneur de cette année, eh bien, c'est Sylvie Germain, qui est auteure. Il y aura des rencontres, des expositions, des spectacles, des concerts, des lectures, bien sûr, des ateliers et beaucoup un programme jeune public aussi. Et puis une cinquantaine d'auteurs et d'artistes qui sont invités. Donc pour tout renseignement, un numéro de téléphone, le 05 63 63 57 62 ou par internet www.confluence.org, puisque pour le programme, hein, pour avoir tout le détail, Confluence étant le nom de l'association qui organise ce festival, eh bien, depuis 19 ans. Ensuite, l'atelier d'écriture mensuel organisé par Hélène Dufaux, auteure de notre région, a lieu dimanche 29 novembre de 10h à 17h au local Ayamé 20 rue Figeac, quartier des Minimes à Toulouse. Donc il faut réserver, je vous donne le numéro de téléphone d'Hélène Dufaux, 06 70 22 02 99 ou le 09 52 83 22 85. Et puis je terminerai cette petite page d'info en vous rappelant que ce week-end à Colomiers a lieu le festival de la BD. C'est à partir de demain, vendredi, samedi et dimanche, la 23e édition de ce festival. La BD sous toutes ses formes, des dessinateurs, bien sûr, des auteurs, des cours de manga collectif et ateliers d'initiation, des conférences, spectacles, du jazz. Je le dis pour mon invité parce que je sais qu'il aime bien le jazz. Voilà. Donc, pour tout renseignement, vous tapez www.bdcolomiers.com pour avoir le programme exact de ces 3 jours. Et je vous rappelle que sera présent, entre autres, bien sûr, l'auteur, enfin, dessinateur Pierre Druil pour son album Welcome to America, qui était venu nous en parler au mois de mars dernier et publié aux éditions Ego Comics.
Page à page, Claire Ambille.
Alors, je me tourne vers mon invité maintenant, donc Jean-Baptiste Detieux. On va d'abord vous présenter un petit peu, hein, pour nos auditeurs. Oui. Alors, vous avez passé votre enfance à Bergerac, en Dordogne, jusqu'à à peu près l'âge de 10 ans.
Oui.
Vous êtes après venu à Toulouse.
Voilà, Dordogne que j'ai quitté, effectivement, aux alentours de 9-10 ans pour rejoindre Toulouse.
Donc voilà, votre plus tendre enfance s'est passée en Dordogne, voilà. Avec beaucoup de souvenirs qui s'y rapportent, bien sûr. Donc vous êtes papa de Jeanne et de Gaspard, Jeanne qui a 5 ans et Gaspard qui a 2 ans. Mm-hmm. Vous avez fait des études de médecine et donc spécialisé en psychiatrie. Mmh. Peut-être un rapport avec le grand-père maternel qui lui-même était médecin psychiatre en Indochine.
Alors, qui a été médecin et puis qui s'est intéressé à son retour en France à la psychiatrie avec effectivement une empreinte, hein, probablement familiale. transgénérationnel qui m'a touché là, hein, effectivement.
Oui. Oui, parce que depuis toujours, vous avez toujours voulu être médecin, psychiatre.
En tout cas, en tout cas très tôt.
Très tôt,
la psychiatrie et la psychanalyse m'ont intéressé, m'ont interpellé. Alors après, quelles en sont les racines, certainement bien plus profondes, hein, que celles inhérentes à un souvenir émergent à l'adolescence, hein, celui d'un grand-père que je n'ai pas connu.
Oui, voilà. Mais bon, vous avez eu vent de ces histoires. Parce que votre papa étant notaire, c'est sûr que bon, c'est très différent.
C'est très éloigné, oui.
Très éloigné. Alors, vous avez toujours, comme je disais, donc actuellement, donc depuis exactement décembre 2008, vous êtes médecin psychiatre en libéral, donc installé dans un cabinet, après avoir longtemps été médecin hospitalier.
J'étais depuis longtemps également, mais à mi-temps.
Médecin hospitalier.
Voilà, hein, j'avais un double statut, effectivement, qui était celui d'un.
Donc, vous avez quitté le côté hospitalier pour vous réserver qu'au libéral entièrement.
Tout à fait.
Et alors, vous avez toujours aimé écrire, hein, en fait, depuis bon, les romans qu'on a dans les tiroirs à l'adolescence.
Qu'on laisse dans les tiroirs.
Voilà, à tout jamais. Mais vous avez quand même écrit beaucoup de parutions, des parutions scientifiques, hein, relatives à votre métier. Hein.
Oui.
Et sur la psychiatrie infantile, hein, justement, parce que vous êtes spécialisé dans cette. Cette spécialité. Et donc, vous avez. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup lu aussi. Vous disiez que la lecture a toujours été une fascination, puis une sorte de refuge aussi dans votre enfance, dans votre adolescence.
Oui, de refuge peut-être, puisque enfant seul,
fils unique.
Mais à certains moments, en tout cas, enfant seul, et avec cette proximité des livres, puisqu'ils abondaient dans les lieux de vie, cette grande maison à Bergerac.
Et une grande bibliothèque, comme on imagine.
Voilà, et puis avec certes des livres d'enfants, mais aussi ces livres que l'on ne comprend pas, ces livres aux phrases si énigmatiques que l'on a envie à tout prix de comprendre et qui forcent effectivement la curiosité.
Hein. Donc d'où la fascination.
Voilà, voilà.
Et donc le besoin d'écrire, alors ce livre, bon, en est l'exemple, hein, ce besoin donc de mettre des mots, et donc ça vous donne donc la parution donc de ce livre vous donne l'envie de continuer d'écrire en fait.
De fait, je continue d'écrire. Je crois qu'effectivement l'écriture de ce livre et surtout ce qui a préexisté, l'écriture de ce livre a été un événement déclencheur, un ferment.
Et
je continue d'écrire. Alors, pour quelle destinée, ça je ne sais pas. Hein, on verra.
Vous nous tiendrez
au
courant.
Pour la suite, oui, bien sûr, bien sûr.
Donc, ce premier livre, c'est votre premier livre, on va dire, hein, parce que bon, les parutions scientifiques, c'est
bien
autre
sûr,
chose.
Hein,
donc, c'est
sûr.
Votre premier livre, donc Le Voyage de Jeanne, donc aux éditions Anne Carrière. Anne Carrière, qui est la fille de Robert Laffont, qui a été. Ça a été le coup de cœur de cette maison d'édition pour votre livre.
Ça a été le coup de cœur, oui, absolument. Mmh. Avec un coup de téléphone qui m'a fort étonné un lundi après-midi et la voix d'Anne Carrière, chantante.
En personne,
qui m'a dit combien ce livre avait circulé de main en main et provoqué. L'émotion distanciée parfois, mais pas toujours, hein, et l'émotion des moins sensibles, hein, donc effectivement ça a été un coup de cœur.
Un coup de cœur donc de cette maison. Alors c'est pour un premier roman, c'est un gros livre, 215 pages quand même, hein.
Si vous le dites, oui.
Ah oui, c'est marqué dessus. 215 pages.
Oui.
Donc le coup de cœur de cette maison d'édition et de moi-même aussi. D'ailleurs, j'ai beaucoup, beaucoup aimé votre livre. Alors, ce livre est dédié à votre épouse, Cécile. Mm-hmm. Qui nous écoute peut-être en ce moment. Et alors, elle savait que vous écriviez, mais elle ne savait pas quoi. Et en fait, pour son anniversaire, vous lui avez offert, entre guillemets, la lecture de ce livre.
Un cadeau empoisonné, peut-être. Hein,
Non.
En tout cas, il est vrai, oui, j'ai attendu, il y a un an à peu près, le jour de son anniversaire.
Pour lui offrir fruit de vos...
Pour le déposer, effectivement, sur sa table de chevet.
Ah.
Voilà, libre à elle de le lire ou pas, ce qu'elle a fait, bien entendu.
Elle l'a lu, donc ça a été votre première lecture. lectrice. Et vous m'avez dit qu'elle l'avait beaucoup aimé et que ce qui était écrit était assez proche de, de sa réalité à elle
cela,
aussi.
L'a beaucoup émue. Elle s'est retrouvée, bien entendu. Et puis surtout, elle a rencontré des impressions et des choses qui pour autant n'étaient pas bien formalisées, pas bien claires, et sur lesquelles, effectivement, elle a pu voir les mots qui correspondaient donc à ce qu'elle a pu ressentir. Donc ça, c'était très important pour elle.
Donc première lectrice, votre épouse, et puis après, Anne Carrière qui ça a beaucoup plu aussi. Et, et voilà, propulsée dans le monde de la publication.
Oui, dans le monde de l'édition et de la publication.
Dans le monde de l'édition, tout à fait. Alors moi, j'ai beaucoup aimé votre livre, Jean-Baptiste, parce que pour sa pudeur, pour sa belle écriture imagée, moi, j'ai beaucoup aimé beaucoup de phrases. C'est très imagé. Il y a beaucoup d'images dans votre écriture. J'aime beaucoup. À la limite de la poésie, on peut dire. C'est très poétique. C'est un côté poétique.
Oui, mais je crois que l'écriture, et particulièrement l'art de la métaphore, permet de médiatiser, permet de déplacer un peu la crudité de la réalité, en tout cas de faire un pas de côté pour la retrouver aussi, parce qu'il s'agit de ça.
Oui, tout à fait. Et donc l'émotion forcément qui s'en dégage, il se dégage forcément une émotion, mais je précise, c'est pas une émotion, on n'est pas dans le pathos, c'est une émotion saine, je dirais. C'est quelque chose qui fait appel à une corde sensible,
Je crois ou je veux croire, j'espère croire en tout cas, que c'est une émotion, et on en parlait ensemble, qui rejoint la dimension de l'intime, ce qui pour moi est très important, beaucoup plus que celle d'un privé qui s'exposerait aux yeux du lecteur, qui lui sauterait au visage. Non, l'intime est quelque chose à quoi je pense, on est tous, et du côté de la douleur ou de la souffrance, on est tous confrontés à certains moments de la vie.
Oui, tout à fait.
Et c'est quelque chose qui nous réunit et nous rend effectivement tellement semblables. Dans une espèce de communauté transitoire.
Là, on peut dire qu'il y a égalité entre personnes, justement, dans la douleur.
Exactement. Et c'est je crois, une adresse faite à l'autre, aux autres, à l'homme,
oui,
aux hommes.
Oui, tout à fait.
Tout simplement, dans cette dimension de l'intime, pour les rejoindre, les toucher, et dans un moment particulier.
Voilà. Tout à fait. Donc, en prélude au premier chapitre de ce livre, on peut lire une superbe phrase de Christian Bobin, issue du colporteur, le colporteur. Mmh. Alors, je vais la lire parce que moi, elle m'a beaucoup plu. Quittant le monde, tu ouvres un livre, une boîte à silence, familière, ouvragée, délivrant un diable doux, un ange acide. Fermant le livre, tu gagnes enfin ce qui n'est plus ni du monde, ni des mots, la bonté ou le désespoir. C'est une très belle phrase en introduction de votre livre.
Cela dit, j'espère que la balance penche plutôt du côté de la bonté.
Oui,
mais...
oui, bien sûr. On ne sort pas désespéré de votre livre. Non, pas du tout.
Oui.
Malgré des choses qui sont difficiles, mais moi, personnellement, j'en suis pas ressortie désespérée. Au contraire, je trouve que c'est une belle... belle échappée vers un avenir.
J'espère que c'est un livre qui se tient du côté de la vie,
Je l'ai lu
sur cette route de l'écriture, mais du côté de la vie.
Tout à fait. Voilà. Mais moi, je l'ai ressenti tout à fait ainsi. Alors, je vais lire la quatrième de couverture pour donner un peu une idée à nos auditeurs. Jeanne est une enfant très désirée. Sa naissance, longtemps attendue, est contrariée par la découverte d'une anomalie du palais. Malgré les soins appropriés et contre toute attente, la petite fille reste en mal de langage. Lasse de l'accompagner de consultations médicales en examens divers, lasse de s'interroger et de chercher des réponses à ses questions lancinantes, pourquoi sa fille ne grandit-elle pas normalement, pourquoi ne parle-t-elle pas, mais redoutant aussi qu'on ne l'enferme à jamais dans quelques diagnostics, son père s'invente un jour une réponse en forme d'échappée belle. Il prend la route avec elle et l'emmène dans certains endroits chargés de mémoire, au lieu de leurs enfances respectives. Il s'agit, à travers ce voyage avec Jeanne, qui est aussi un voyage pour Jeanne, d'aller à la rencontre l'un de l'autre et d'instaurer, malgré l'absence de mots, un espace où ils pourront communiquer. Voilà, ça c'est la quatrième de couverture pour voilà. Donner un peu le de quoi il s'agit à nos auditeurs. Donc on va y revenir. Déjà, quand on regarde le livre, il y a une très belle photo. Donc c'est une photo issue de vos propres photos personnelles.
Une photo personnelle qu'a prise ma femme effectivement et qui nous représente Jeanne et moi. Voilà, de dos, partant.
Donc au bord de falaise, au bord de
sur la plage de Biarritz.
Au bord de l'océan. Voilà. Et puis donc on vous voit donc de dos qui marche avec un enfant donc qui est Jeanne perché sur vos épaules.
Tout à fait.
Et je trouve que cette photo illustre parfaitement ce qui quelque part ce qui suit dans le livre. Hein. C'est un livre intense. Moi j'ai trouvé très humain et puis très sensible. Et donc rien qu'en voyant la photo, on imagine ce déambulement
Mais aussi avec une zone d'ombre. Effectivement, il est plutôt difficile de se débarrasser de son ombre. Et sur la photo, celle-ci lèche le sol jusqu'à la plage.
Oui, c'est vrai, il y a une grande ombre. Voilà, votre ombre, finalement.
Oui.
Voilà. Oui, bah, c'est un peu ça. Oui, ça illustre un peu le contenu du livre. Elle est très bien choisie, cette photo. Je ne sais pas si c'est vous, l'éditeur, qui avez...
C'est moi, oui.
C'est
oui,
vous.
Oui,
et l'éditeur a accepté...
Avec, effectivement, la complicité de l'éditeur, bien
sûr.
Oui,
mais c'est très bien qu'ils aient accepté cette photo. Alors, le titre de ce livre, Le Voyage de Jeanne. Alors, moi, personnellement, je trouve que ça aurait pu être aussi le sourire de Jeanne, parce qu'on parle beaucoup de son sourire à Jeanne dans ce livre, un sourire adressé aux chirurgiens, à ses parents, donc à vous et à votre épouse, un sourire confiant, vous dites à un moment « Jeanne sourit et c'est toute son âme qui sourit ». C'est un sourire vraiment énorme, où il y a tout dedans, quelque part. Vous dites aussi « toujours ces mêmes sourires, retournés en eux-mêmes, qui en disent beaucoup, mais dans un langage indéchiffrable ». Donc c'est un peu une forme de langage, ce sourire.
Il y a toute cette palette du sourire qui se déploie, effectivement. Hein, ces sourires improbables au décours d'une opération, au chirurgien qui l'a opéré, alors que le palais et la bouche restent douloureux. Il y a des sourires plus énigmatiques qui sont à déchiffrer, enfin, toute une palette.
Et à un moment, vous dites aussi, vous écrivez plus exactement, nous nous accrochions à son sourire comme deux naufragés à une bouée. C'est-à-dire vous et votre épouse, quand moments très difficiles, vous ne saviez plus trop quoi penser, quoi faire. Donc vous vous raccrochiez à ce sourire qui était la promesse de quelque chose, de toute façon. Et alors, on peut lire aussi, donc pour expliquer un petit peu aux auditeurs, ceci est l'histoire d'une petite fille née sous une étoile pâlissante et qui, malgré toute l'énergie qu'elle y met, s'essouffle à la rendre incandescente. Je trouve ça très... Moi, j'aime bien. J'ai noté ces phrases parce qu'elles m'ont vraiment touchée.
Elle me paraît effectivement tellement parlante au regard des efforts, de la volonté d'une petite fille qui est si hésitante et si vacillante. Comment donc en rendre compte sinon avec ces mots ça me paraît...
Et puis, on y lit aussi « L'enfant éternel qui n'en finit pas de le rester ».
Oui.
Voilà, le fait de ne pas grandir, de grandir à son rythme, ça fait, vous avez noté on peut lire cette phrase dans ce livre, et aussi, il y a un début de phrase, et à un moment, vous dites, où les petites filles qui ne parlent pas ont des raisons bien à elles de se taire. J'aime bien aussi
ça serait la plus belle des histoires, si raison cachée il y avait.
Il y a peut-être,
Jeanne,
on ne sait pas.
Pour l'instant,
effectivement,
garde son secret, mais le garde-t-elle au fond de son corps, dans une empreinte biologique ou dans sa psyché, nul ne le sait précisément aujourd'hui.
Donc c'est pas étiqueté actuellement au niveau médical.
Voilà, mais je dirais que c'est pas tant ce parcours, effectivement, le détail de cette difficulté qui nous importe. Je crois que c'est bien entendu, et vous l'avez déjà souligné, le travail d'écriture qui consiste finalement à escamoter un temps la réalité pour la retrouver peut-être sous une autre forme.
Oui, comme la forme, vous l'imaginez, à un moment vous écrivez « Quant à Jeanne, je l'imagine sous la forme de poussière d'étoiles ».
Oui. C'est décidément cette Jeanne.
Oui.
Quelle forme prend-elle? Oui, oui.
Donc c'est un premier livre un peu, comment dire, qui n'est pas vraiment étiqueté, hein, qui est un peu hybride, à mi-chemin entre le témoignage, le récit et le roman, hein, qui est à la fois autobiographique et fiction. Hein, c'est un peu comme plutôt un parcours de vie, on peut dire ça comme ça. Et puis donc c'est rare pour un psychiatre de se confier, de s'ouvrir, de se dévoiler son intérieur personnel comme
c'est,
ça.
Oui, c'est effectivement quelque chose qui est peu commun dans notre profession.
Tout à fait.
Et qui m'a semblé s'imposer à moi, malgré hein, les fonctions que j'occupe, avec une nécessité de vérité. Tout en passant, bien entendu aussi, par des pans de fiction.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas
pour
que
autant, ça n'en est pas moins vrai. Hein, je rappellerai la phrase de Philippe Forest, la fiction est une forme provisoire de la vérité, qui est une phrase qui me
paraît superbe. D'ailleurs, si vous ne m'aviez pas dit qu'il y avait des parties fictives, on va dire, moi, j'aurais très bien pu... Enfin, je veux dire, le lecteur peut tout à fait croire que c'est autobiographique du début à la fin.
Tout à fait.
Et donc, ce livre vous a permis donc de mettre des mots sur l'absence de mots de Jeanne, finalement.
Voilà.
Sur son silence, ça vous a permis de mettre des mots.
C'est ça, oui, c'est tout à fait
d'expliquer
ça.
D'expliquer un peu, peut-être l'inexplicable, mais enfin de...
En tout cas, c'est d'essayer de me forger une langue, alors celle des souvenirs et celle de la rencontre des souvenirs, celle de ce voyage imaginaire, pour tenter de construire un pont avec Jeanne, hein, une passerelle en tout cas, hein, et la rejoindre, la rencontrer véritablement.
Voilà, et c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi pour... ce livre vous a permis d'aller à la rencontre des autres aussi.
De quitter une position qui pourrait être finalement, si je m'étais tue, en tout cas c'est le sentiment très, très fort qui était le mien, de rester en exil sur une partie de moi-même, hein, un îlot, enfin quelque chose à garder au secret, dont j'ai voulu me dégager avec effectivement cet acte
d'écriture
et ce parti pris d'écrire qui peut être sujet à caution, hein, mais je l'assume pleinement.
C'est une aide pour continuer, pour survivre au traumatisme et puis continuer à vivre.
Tout à fait. Oui.
C'est une sorte aussi de voyage, une fuite en avant ou un retour aux sources aussi.
Un peu les deux, c'est un voyage en avant. C'est un peu les deux. C'est une fuite en avant,
oui.
C'est un voyage vers. C'est un voyage pour quitter une position infernale.
Mais pour aussi revenir aux sources.
Aller à la rencontre d'un horizon qui effectivement est celui d'une rencontre hypothétique. Hein. Mais c'est aussi un voyage en arrière, dans la mesure où il est question de ramener des souvenirs, mes souvenirs d'enfant, ceux de la courte vie de Jeanne aussi. Hein. Tel que je me les remémore.
Donc vous avez voyagé étant jeune, hein, vous avez été en Asie, justement un peu sur les traces de votre grand-père.
Jeune adulte, j'ai voyagé pour de vrai, si je puis dire. Hein, mais enfin, qu'en est-il vraiment de cette vérité-là? Là encore, sur les traces un peu fantomatiques de ce grand-père maternel. Donc,
tout à fait. En Amérique du Sud aussi.
Oui.
Et puis on retrouve toujours dans ce livre l'importance du minéral.
Oui.
Le minéral est important, hein, avec le Grand Canyon n'en est qu'un exemple. Il y a toutes ces cailloux que vous ramassez, d'ailleurs quand vous étiez petit, vous collectionniez les pierres
semi-précieuses.
Alors récemment,
récemment de vivant ou pas, en tout cas voilà, je crois que l'écriture a pour finalité aussi que de rendre vivant ce qu'il est plus tout à fait à un certain moment. Hein. Je crois que c'est l'enjeu de ce livre, hein, que de rendre finalement figurable, vivable, acceptable aussi, hein, une réalité qui est, pour une certaine part, traumatique.
Tout à fait. Donc ce voyage, donc, d'où le titre, le voyage de Jeanne, donc ce voyage fictif en réalité, hein, le voyage lui-même est fictif. Hein.
Tout à fait, il est fictif, oui.
Tout à fait. Donc emmène le lecteur du point de départ, c'est Toulouse, hein, là où vous vivez avec votre épouse et vos enfants, aux plages de Biarritz, on en parlait tout à l'heure justement par rapport à la photo qui illustre le livre, où Jeanne se serait égarée, hein, là c'est fictif, hein, où il y a une période de panique, où vous ne voyez plus Jeanne sur la plage et voilà où elle se serait égarée. Après, on passe en Dordogne, à Bergerac, où justement, là où vous avez passé votre prime enfance, hein, on va dire, jusqu'à une dizaine d'années, ce lieu perdu et privilégié finalement de l'enfance, où vous évoquez aussi le souvenir de votre maman et de sa maladie. Hein. Mm-hmm. Après, on part à Morlaix, en Bretagne.
On fait un... effectivement un petit détour par, par l'île de Ré.
Ah voilà, l'île de Ré, elle n'est pas nommée. Donc,
mais elle n'est pas nommée.
Oui, bon. Mais il y a l'île, effectivement.
Voilà, c'est chose faite.
Pleine de lumière, avec l'importance de la lumière.
Qui est pleine de lumière, d'une lumière écrasante et aussi très importante, puisqu'elle met en valeur et elle signe la réalité des choses.
Hein, oui.
Puisqu'on se rend compte, lors de ce passage par l'île de Ré, c'est un souvenir que je rapporte, puisque nous n'y revenons pas vraiment, nous nous arrêtons sur le pont de l'île de Ré et nous continuons de cheminer avec Jeanne, nous nous rendons compte lors de ce voyage remémoré de la difficulté grandissante de Jeanne, sa maman et moi. Voilà. Et ben, la route continue.
Vous dites à un moment, vous vous rendez compte qu'elle ne sera jamais
comme les autres. Probablement pas comme les autres enfants.
C'est à cet endroit-là. Enfin, c'est lors de ce.
L'un de ces endroits, voilà, l'un de ces moments.
Alors Morlaix, donc en Bretagne, où vous ramassez des cailloux.
Eh oui, encore,
voilà, forcément,
encore des cailloux, j'en ai plein les poches, décidément.
Voilà, ouais. Les collections de l'enfance sont toujours présentes.
Heureusement, je les sème parfois, ces cailloux.
Comme le petit pousset pour retrouver votre chemin.
Oui, oui.
Après, vous allez jusqu'à Paris avec Jeanne, donc dans ce voyage, comme je le dis, fictif, où vous, dans l'appartement de votre fille aînée, Shanita, voilà, la grande sœur de Jeanne. Alors là, il y a un passage très amusant. Jeanne adore le dessin animé Oui Oui, et vous le détestez. Vous détestez ce petit lutin, ce petit bonhomme là avec son taxi jaune.
Il est un peu irritant parce que, oui.
Genre tout va bien, je vais bien.
Voilà, ça. C'est un peu ça.
Et aussi un beau souvenir. Enfin moi, ça me rappelle aussi, ça nous touche parce que ça rappelle aussi l'enfance de tout un chacun. La boule en plastique avec la tour Eiffel à l'intérieur et quand on secoue, il y a de la neige qui tombe sur la tour Eiffel.
Oui.
C'est voilà.
Le monde à l'intérieur d'une boule de cristal.
Voilà, un monument si grand qui est tout petit qui tient dans la main d'une enfant. Dans la main ou dans une poche, ou voilà, c'est un côté magique. Alors après, on passe à Bar-le-Duc. Bar-le-Duc, pourquoi Bar-le-Duc? Eh bien, c'est un souvenir relatif à votre oncle, Charles, qui a eu un accident, justement, à Bar-le-Duc, dans cette forêt.
Autour de Bar-le-Duc, peut-être, historiquement, effectivement, ça n'est pas le lieu exact. Mais en tout cas, c'est l'occasion de ramener ce souvenir.
Et donc, vous avez voulu retourner sur les lieux de cet accident de votre oncle. Et puis, donc, après, il y a des voyages dans les souvenirs aussi. Il y a l'Espagne aussi, puisque vous terminez par l'Espagne avant de revenir à Toulouse. L'Espagne, parce que vous avez passé beaucoup de vacances dans la familiale en Espagne. Puis après, vous revenez à Toulouse. Et puis, il y a tout ce voyage aussi dans la mémoire, dans vos souvenirs propres. Donc, avec, par exemple, la Californie, où vous avez été avec votre épouse. Vous avez ramené un attrape-rêve.
Pour
éloigner les cauchemars,
les
mauvaises...
Il en est fait une provision suffisante pour la vie, tout à fait.
Et puis une île, également aussi les Alpes suisses, je me dépêche parce que malheureusement le temps nous rattrape là aussi.
Le voyage prend fin.
Une autre île aussi lointaine que vous ne nommez pas non plus, lieu de votre voyage de noces en plein hiver. Donc une île,
c'est les Maldives,
voilà. Une île lointaine. Et donc voilà, donc c'est un mélange en fait d'un voyage qui est de toute façon fictif, mais qui amène aussi un voyage personnel où vous avez vos propres souvenirs.
C'est un voyage intime.
Donc c'est un très très beau livre, Le Voyage de Jeanne aux éditions Anne Carrière, que je vous recommande chaleureusement. Et alors donc on attend peut-être un prochain livre alors.
On verra.
Puisque vous êtes parti dans l'écriture.
On verra où nous mène cet autre voyage.
Vous nous tiendrez au courant, puis vous reviendrez nous le présenter.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste de Thieu.
Merci beaucoup à vous, Claire.
Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur les ondes de Radio Occitanie. À d'ici.